En fait, c'est donc un système qui permet aux banques du monde entier de effectuer très rapidement et disons en un clin d'œil et presque virtuellement des transactions qui avant prenaient fort longtemps. Est-ce qu'à ce titre-là, on pourrait dire que c'est le clearing qui a inventé, qui a lancé ou qui tout au moins a permis la mondialisation financière à laquelle on assiste aujourd'hui et le tourbillon financier qui va avec?
C'est exact. Si on cherche le lieu où s'est créé, où se sont créées les bases même de la mondialisation, il faut dire que c'est dans ces systèmes de compensation, ces chambres de compensation internationales, qu'il y avait le meilleur accès à l'information qu'il fallait pour mondialiser, comme on l'a vu dans ces 2 dernières décennies, parce que dans ces systèmes supranationaux, vous avez l'accès à la répartition des tranches de capital disponibles aux grands acteurs de marché. Et c'est les gens qui dirigent un tel système qui peuvent, théoriquement, mais je crois que c'est ce qui s'est passé dans, pas seulement en théorie, mais en pratique. Ça a été mis en pratique à partir de ces systèmes de clearing et beaucoup de fusions de ces 2 dernières décennies, à mon avis, sont nées et ont été initiées à partir de ces systèmes de clearing.
Comme corollaire du fonctionnement des systèmes de clearing, on a un endroit à peu près centralisé, disons 2 ou 3 endroits, où se retrouvent toutes les transactions financières au monde, ou à peu près. C'est pour ça d'ailleurs que Attac vous a pris sous le bras pour faire aussi un peu la promotion de votre livre. Finalement, quand on regarde comment fonctionne le clearing, on se dit que la taxe Tobin existe, sauf qu'elle ne bénéficie pas au tiers-monde, mais elle bénéficie à Clearstream et à Euroclear.
C'est une bonne définition de la taxe Tobin. Non, là, vous voyez juste parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment les endroits où on peut, si on veut vraiment, encaisser une taxe Tobin. C'est là qu'il faut le faire, mais je dirais qu'il faut aller au-delà de ces 3 systèmes de compensation internationaux et également encaisser auprès des chambres de compensation nationales. Parce que là aussi, une bonne partie, c'est bien sûr pas les transactions transfrontalières que vous taxerez là, mais si vous voulez taxer toutes les transactions des marchés, il faut pas oublier les marchés nationaux.
Enfin, moi, ça lève quand même déjà de sérieuses hypothèques qu'on pense en général qui pèsent sur la taxe Tobin. Ça lève déjà de sérieux problèmes techniques qu'on reproche en général à la faisabilité de la taxe Tobin.
Non, elle est tout à fait faisable. Je crois que jusqu'à présent, la raison pour le secteur bancaire et financier de s'opposer à l'encaissement de cette taxe, c'était plutôt que eux, ils savaient depuis toujours qu'il serait facile de l'encaisser. Mais ce qu'ils nous ont caché ou dissimulé, c'est les volumes réels du marché. Parce que je dis que les statistiques établies par ces systèmes de compensation sont tout à fait gonflées. Parce que on agit suivant le vieux principe de Churchill. Moi, je crois seulement dans les statistiques que j'ai falsifiées moi-même. Et dans ces systèmes-là, je peux vous assurer qu'on y a forcé un peu le rythme parce que les statistiques, c'est un argument de marketing, c'est un argument qui n'est jamais que vous n'êtes pas obligé de prouver par après dans vos bilans. Et c'est pour ça que, étant un argument de marketing, on a fait de l'excès de zèle en publiant des statistiques surgonflées. Et pour preuve, je veux le fameux cas de 1,7 trillion d'euros de bulles d'air comptabilisées dans le système Clearstream avant même que notre livre apparaisse, ce qui a été à la une de tous les grands journaux financiers de par le monde au tout début de cette année.
Pour en venir à votre livre, la révélation majeure, c'est finalement l'existence de ces comptes non publiés, qui en soi ne sont pas nécessairement comment dire, un délit, mais qui peuvent devenir l'instrument de choses tout à fait inavouables, comme par exemple des délits d'initié, du blanchiment d'argent, etc. En tant que Béotien, on a un peu du mal à imaginer qui se sert de ça, comment ça fonctionne, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 minutes ce qu'on doit imaginer en entendant ça?
Oui, il n'y a plus de présomption d'innocence à partir du moment où on constate, comme nous venons de le constater dans la dernière liste des comptes qui nous étaient accessibles, qui datent d'avril-mai 2000, que dans ces comptes non publiés, vous trouvez des comptes qui ne sont plus dépendants d'un compte principal, c'est-à-dire qui sont des unités fonctionnant uniquement dans l'angle mort de l'économie mondiale représentée par ce secteur parallèle créé dans le système Clearstream. On mentionne toujours la même banque comme exemple, mais il y a des dizaines d'exemples analogues. C'est l'exemple de la banque mafieuse russe, la Menatep, qui ne dispose pas d'un compte normal, un compte publié dans les systèmes de clearing. Mais on connaît l'affaire du Kremlin Gate, dans laquelle la banque Menatep a été impliquée. Et lorsqu'on voit que toute cette affaire sur les fonds dérobés en quelque sorte aux fonds monétaires internationaux, dans cette affaire, c'est par cet angle mort qu'est certainement passé une bonne partie de ces fonds.
Et en clair, quels sont les délits financiers qu'on peut opérer grâce à cet instrument?
Tout est pensable. Donc, on peut imaginer toutes sortes de possibilités. Nous n'avons pas, par notre livre, voulu dénoncer des cas particuliers. Nous avons voulu décrire un système de dissimulation qui peut cacher, entre autres, des opérations de blanchiment. Or, nous voulons laisser au juge le soin de s'intéresser à ce système de dissimulation pour prouver par les détails à recueillir par les juges qu'il y a entre autres des opérations de blanchiment de toutes sortes de capitaux de nature douteuse qui se réalisent sous ce titre ou sous ce chef de compte non publié.
Juste un exemple anecdotique, la multiplication de ces comptes non publiés aurait permis le passage à l'euro de toutes les fortunes mafieuses qui seraient d'ores et déjà faites.
Oui, comme l'euro scriptural existe déjà depuis quelques années, on peut imaginer que ce système parallèle et occulte est servi au passage vers l'euro scriptural et qu'on ne détectera plus à la fin de cette année-ci les capitaux mafieux qui, depuis longtemps, sont déjà sous nature euro scriptural, mais aussi lavés sous d'autres formes.
Finalement, au-delà des technicités, la révélation du bouquin, c'est le fait que tout le système financier international est pris en otage par les infiltrations mafieuses, qui ne sont même plus que des infiltrations, qui sont finalement en train de devenir la colonne vertébrale de ce système financier international.
Oui, depuis 2-3 décennies, on ne sait plus faire le partage entre finances parallèles, finance mafieuse donc, et la finance tout court. On ne peut pas accuser les banques aujourd'hui de ne plus faire la distinction, parce que la distinction, ils ne peuvent déjà plus la faire depuis bien longtemps. Les courants parallèles se sont mêlés au courant de la finance depuis trop longtemps déjà, et le système a duré trop longtemps pour faire marche arrière à l'heure actuelle. Donc, on doit continuer pendant un temps encore à vivre ce qu'on vit. Mais connaissant maintenant les endroits où on doit être plus vigilant et où il faut introduire, à mon avis, un contrôle public international et ne plus laisser à des réviseurs indépendants, soi-disant indépendants, mais payés par les firmes pour les contrôler, ce type de contrôle, pour ce qui est des chambres de compensation internationales, doit, à mon avis, être confié à une autorité publique à caractère international, pour que le pouvoir public et pour que le commun des citoyens ait de nouveau le contrôle d'une institution devant être surveillée démocratiquement.
Donc on le voit, les révélations dans votre livre homonyme sont vraiment énormes puisqu'elles remettent en cause le système financier international. Moi, j'avais découvert la publication de votre livre dans le magazine Technicard, où le journaliste analysait ça de la façon suivante. Soit ça va tomber à plat parce que c'est pas fondé, soit ça va éclater et le système va vaciller, soit, et c'est le plus probable, ce qui va se passer, c'est que finalement, on va pas en entendre parler parce que c'est trop gros pour passer. Ce qui est en train de se passer, c'est un peu entre les deux finalement. On en parle un petit peu, mais on a eu du mal à démarrer. Donc, quelles ont été les réactions dans la presse, etc.?
Les réactions de début, je crois qu'on a dépassé entre-temps le stade vraiment difficile où il y avait trop peu de gens qui avaient lu le livre et il y avait au départ trop de gens qui commentaient déjà un livre qu'ils n'avaient pas lu. Entre-temps, on remarque que de plus en plus de gens ont lu le livre, ont compris qu'il ne s'agissait pas de ce que les premiers articles ont fait croire que c'était et que le vent commence à tourner en notre faveur, alors que je crois que y a une journaliste anglaise qui m'a dit dernièrement, après avoir lu le livre, je comprends que ce livre-là doit créer vraiment la pagaille dans le monde des finances, mais je suis convaincu, me dit-elle, que votre livre survivra et sera un ouvrage de référence, duquel on dira dans 30 ans qu'il aura été le livre qui aura bouleversé la finance mondiale, vers l'an 2000.
Comment est-ce que vous expliquez des réactions hostiles, comme par exemple celle du Monde qui vous a accusé d'erreurs factuelles et que tout ça ne tenait pas debout finalement, et Libération qui est plus ou moins silencieuse sur l'affaire?
Ben, Libération a quand même eu des pages entières.
Ils ont publié votre portrait, mais c'est à peu près. Ils n'ont pas fait grand-chose de plus, il me semble.
Oui, peut-être, mais je crois que il faut pas oublier qu'au départ, il y avait des initiatives prises par Lucie et nous avons vu
Donc
aujourd'hui
Lucie, c'est André Lucie, le
André Lucie
président de
de
Clearstream, qui a
Clearstream
été mis en veilleuse pendant il y a 2 semaines.
Oui. On m'a montré aujourd'hui, un journaliste m'a montré tout un courrier qu'il a reçu des avocats d'André Lucie, les avocats anglais, qui l'ont menacé de ne pas écrire quoi que ce soit sur notre livre. Et il a joint pour preuve à son argumentation les dépôts de plainte issus contre Denis Robert à Paris, pour preuve que ce qui leur arriverait si jamais ils oseraient publier un article. Donc, il y a une pression énorme faite par les meilleurs avocats des grandes places sur lesquelles est représenté Clearstream. Et pour l'instant, je crois qu'il y a de plus en plus de journalistes pour lesquels cette façon de procéder de Clearstream devient de plus en plus transparente et qui osent maintenant ignorer les menaces de Clearstream.
Oui, la pression judiciaire est très forte aussi, puisque c'est la raison de l'absence de Denis Robert ce soir.
Oui.
Vous vous attendez à des difficultés judiciaires?
Non, c'est les plaintes qui ont été déposées et Lucie procède à la façon scientologique, je dirais, parce que on tue l'adversaire en lui imposant toute une série de procès qui vont lui coûter les yeux de la tête. On nous force à engager à forts frais des avocats coûteux pour lui, il n'a pas de problème de fric pour payer les meilleurs avocats du monde, alors que nous-mêmes, on n'a encore rien gagné sur les ventes de livres, mais même si on en vend à l'heure actuelle et si les procès continuent à affluer, on devrait déjà vendre 1 million de livres rien que pour payer nos avocats. Donc c'est une tactique qu'on avait l'habitude de voir qu'avec la scientologie. Il faut renvoyer au procès que la scientologie avait intenté au magazine Time, il y a 10 ans, je crois.
Une des critiques qu'on vous fait, elle paraît justifiée de prime abord, disons, c'est que vous parlez d'une société que vous avez quittée il y a 18 ans. Seulement, ce qu'on ne sait pas souvent en adressant la critique, c'est que vous avez mis ces 18 ans à profit pour enquêter justement sur l'infiltration des milieux criminels dans
Dans
la
la
finance
finance.
internationale. Qu'est-ce qui a motivé comme ça ces 18 ans d'enquête? Et puis aussi, une question que je me pose, c'est si jamais vous n'aviez pas rencontré Denis Robert, par où est-ce que par quel canal est-ce que ce serait sorti et est-ce que ce serait sorti?
Ce serait sorti, comme je l'ai toujours dit, après ma retraite. J'ai dû prendre une retraite anticipée pour raison de santé, il y a 3 ans déjà. Et comme j'étais arrivé donc dans les conditions idéales pour vraiment sortir tout ce que j'avais appris dans ces 18 ans, j'ai profité de cette occasion parce que mon médecin m'a dit, j'étais mis en retraite pour raison de santé à cause de problèmes physiques, mais psychiquement, je te confirme que tu es en forme. Faut pas chômer côté psychique, me dit-il.
Et alors, qu'est-ce qui a motivé cette enquête de 18 ans? C'est le ressentiment après l'éviction, disons, de chez Cedel qui est devenu Clearstream après?
Non, non, c'est pas une revanche que je prends sur Cedel Clearstream, parce que il faut dire que jusqu'à l'arrivée d'André Lucie chez mon ancien patron, il n'y a pas eu de la moindre dérive dans ce système que j'ai quand même contribué à créer. Si mon licenciement est à la base de ce que j'appelle ma profession parallèle acquise depuis 18 ans, de mon intérêt pour le crime organisé en milieu financier, c'est parce que lors de mon licenciement, je cherchais à trouver les raisons qui avaient poussé Seidel à me licencier, parce que Seidel n'était pas parvenu à formuler une faute grave qu'il invoquait pour mon licenciement. Alors j'ai voulu savoir, et c'est là que j'ai commencé à rechercher les vraies raisons de mon licenciement. Et comme par hasard, je suis tombé sur des affaires criminelles datant d'avant l'époque de mon licenciement qui avaient quand même passé sur mon bureau. Hein, j'ai grandement ouvert les yeux, j'ai constaté une chose, c'est que pendant les 13 ans chez Seidel, je me suis toujours axé sur les meilleures solutions techniques pour rendre ce système le plus performant possible et que je n'avais pas pris en considération les aspects de politique financière et autres motifs qui se cachaient derrière ce type de marché conservé. J'étais donc plutôt un technicien qui ne s'intéressait pas aux détails de la politique qui se jouait dans les arrière-coulisses de la grande finance internationale. Or, cherchant d'après les vrais motifs pour mon licenciement, je tombe sur les cas concrets comme l'affaire Ambrosiano et en procédant et en continuant mes recherches, je tombe sur toutes sortes d'affaires dans tous les continents et je crée mes propres contacts avec le monde de la justice et finalement, après quelques années, je me trouve avec un cercle de vieux copains un peu partout dans le monde, d'anciens policiers, d'anciens juges, mécontents de ce qu'ils ont dû faire durant leur profession, et puis qui continuent à s'intéresser à la recherche, mais étant plus libres eux aussi et déjà en pension pour la plupart de ces contacts, j'ai accumulé énormément de faits divers sur les cas disons les cas de criminalité financière un peu partout en Europe. C'est les affaires françaises qui ont toujours eu quelques petites ramifications sur Luxembourg, les affaires belges, l'affaire Coles, Agusta, tout ça a aussi des ramifications vers le Luxembourg. Et une fois que vous êtes dans la matière, vous recherchez, suivant le moindre détail, lorsque dans le soir, je lisais qu'on avait découvert le nom d'un holding à Luxembourg dans telle filière, mais je recherchais après la holding pour pour savoir qui étaient les bonhommes que cachait le Luxembourg derrière qui se cachaient dans le registre du commerce luxembourgeois derrière un tel holding, pour arriver peut-être à d'autres acteurs à communiquer au juge d'instruction qui traitait de ces affaires, parce que ces juges, pour une bonne partie, n'avaient pas l'habitude de s'orienter orienter leurs recherches sur la place financière de Luxembourg, parce que les autorités, très souvent, sur leurs demandes, leur donnaient des réponses évasives, alors qu'il y avait quand même bon nombre d'informations qui étaient librement accessibles, parce que reproduites dans le registre de commerce, on aurait pu sauver une bonne partie de la mise et de la critique qui n'était pas toujours injustifiée quand on disait dans les pays qui nous entourent que le Luxembourg ne collaborait pas comme il le faudrait à des enquêtes internationales, alors que le Luxembourg aurait pu mieux s'en sortir en livrant les informations qui, de toute façon, étaient accessibles au grand public.
Mais c'est un peu ça qui inquiète aujourd'hui, puisque l'enquête sur Clearstream n'est plus l'enquête officieuse d'un seul homme, c'est devenu une enquête officielle au Luxembourg, menée par un juge d'instruction. Et là, on se dit, est-ce que ce n'est pas le début de la fin? Parce qu'ils vont quand même hésiter à remettre en cause tant de choses qui sont remises en cause par ce livre. Est-ce que vous avez confiance en l'aboutissement de l'enquête?
Oui, parce que j'ai une énorme confiance en ce juge. Donc le substitut Carlos Tsayen, il est substitut du procureur depuis 2 ans seulement, mais il faut savoir que c'était un très bon avocat pendant plus de 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui se reconvertit aujourd'hui à une profession qui lui rapporte bien moins que ce qu'il gagnait en tant que vrai avocat de pointe sur la place de Luxembourg. Et je suis étonné en voyant combien il est motivé pour aller de l'avant dans cette affaire. Il faut bien sûr qu'il soit soutenu par les efforts que fait la presse internationale à l'heure actuelle, les efforts qui sont faits par ses collègues procureurs un peu partout en Europe. Là, je voudrais renvoyer sur la lettre signée ou l'article signé par Berthos, Van Ruymbeke, Eva Joly, Jean de Maillard et autres dans Le Monde d'il y a, je crois, à peu près 2 semaines. Je crois que cette lettre a donné un énorme appui au substitut Carlos Tsayen. Parce qu'on a remarqué quand même que c'est suite à cette prise de position des procureurs les plus vaillants d'Europe qu'il a trouvé le courage de lancer l'enquête définitive. Donc il faut pour l'instant toute la presse internationale, tous les magistrats d'Europe peuvent aider ce juge en déclarant ouvertement ce qu'ils ont commencé à déclarer, c'est que il y a matière à se creuser la tête dans la matière qu'on traite dans notre livre.
Pour terminer, une question plus personnelle. On est un peu étonné parfois par les paradoxes que vous rassemblez, c'est-à-dire que vous êtes issu à la base d'un milieu plutôt ouvrier. Vous avez aujourd'hui des idées qui étonnent parfois. Vous réfléchissez à la société sans argent, vous avez certaines idées plutôt anticapitalistes et tout. Et entre les deux, il y a, et c'est resté dans votre physique par exemple, et dans votre charme discret, le banquier luxembourgeois. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans ce monde qui finalement ne vous ressemble pas tellement, apparemment?
Oui, j'étais toujours, et je l'ai dit souvent, j'étais le philosophe égaré dans la haute finance. Ça, j'ai bien conscience de ça et j'étais pas à ma vraie place en milieu bancaire parce que l'argent dans ma vie n'a jamais joué un rôle. Hein. Et c'est peut-être aussi mon grand problème, hein, mais je crois que c'est aussi mon grand fort de pouvoir encore réfléchir dans les temps qu'on vit à une vie sans argent. Parce que je crois que ce qui est essentiel dans toute vie d'un homme, c'est de pouvoir encore rêver. Et je crois que beaucoup de nos gens, surtout dans les milieux financiers, ils ont perdu la faculté de pouvoir rêver.